Quand on est en analyse, qu'est-ce qu'on dit de tellement différent?
Que suis-je? Que suis-je devenu? Une voix. Une voix à la radio. Une voix dans le poste. Rien qu'une voix. Séparée du corps. La voix d'un invisible. Je me sens devenir invisible. En parlant. Je parle tout seul. Je parle tout seul dans ce studio, et pourtant, vous êtes là. Vous tous. Pour moi si présent. Puisque je parle pour vous. Pour toi qui te tais. Vaste auditoire. Que je ne connais qu'en idée. Pour toi. La multitude, toi, n'importe qui, de tout venant, toi, la grande oreille. Eh bien, tout compte fait, ce n'est pas différent d'une psychanalyse. Là, tout seul, devant le micro, mais vous, ailleurs, m'écoutant, cela me rappelle le temps où moi, j'étais en analyse, j'allais 4 fois par semaine chez mon psychanalyste. J'allais droit sur le divan, je m'allongeais, je parlais. Je parlais sans le voir, je parlais tout seul, mais il était là, il écoutait. Ne me demandez pas combien de temps ça durait. Je n'ai jamais regardé ma montre. Ça ne durait pas très longtemps. Parce que je n'ai jamais été en analyse que chez des lacaniens. La psychanalyse, contrairement à ce qu'on pense, n'est pas un dialogue. C'est bien plutôt un monologue. C'est, disons, un monologue la plupart du temps. De temps en temps, rarement. Cela peut se faire attendre des jours, des semaines, parfois des mois. Des mois. Le psychanalyste parle. Il dit quelque chose. Ce qu'il vous dit vous semble d'autant plus précieux que c'est rare. D'autant plus précieux que ça vienne quelqu'un qui vous a entendu dire ce que vous ne dites à personne d'autre. Si l'on veut, ce sont des confessions. Mais vous savez, les confessions, on en a vite fait le tour. Qu'est-ce qu'on a à avouer ? On avoue des misères qu'on vous fait, les misères que, à l'occasion, on s'est faites à soi-même, la honte, ce qu'on se reproche. Bon, franchement, ça ne va pas très loin, ça. On se masturbe, on boit. On désire qui on ne voudrait pas désirer. On aime et on n'est pas aimé. On n'aime pas qui on devrait aimer. On n'aime pas comme on devrait aimer. On aime quelqu'un que l'on ne désire pas ou que l'on ne désire plus. On désire seulement des personnes qu'on n'aime pas d'amour. Ou encore, on aime, mais on ne jouit pas avec qui on aime. Et puis, qu'est-ce qu'il y a encore ? Il y a des phrases qui vous ont été dites, qui vous ont marqué, à jamais. Et on ne sait pas vraiment pourquoi. Ce ne sont pas forcément des phrases si intelligentes que ça. Il y a des événements qui restent inoubliables, des expériences, des premières fois, qui vous semblent avoir décidé de tout dans votre vie. Il y a aussi des choses que l'on ne peut pas s'empêcher de faire ou de ne pas faire. Il y a des pensées que l'on ne peut pas s'empêcher d'avoir. Il y a surtout, enfin, il y a aussi des images, des petites histoires qu'on doit appeler à la rescousse pour jouir tout seul, mais aussi parfois pour jouir avec son partenaire. Ces petites histoires-là, ces petits scénarios, on peut bien les trouver bêtes, stupides, même dégoûtants, infâmes. Et pourtant, c'est là. Il faut ça pour jouir. C'est impératif pour l'un ou pour l'autre. Et quand c'est le cas, c'est souvent ce qu'il y a de plus difficile à confesser. Et souvent, on ne dit pas ça tout de suite. On attend d'être bien sûr que le psychanalyste pourra le supporter. Mais il supporte. Il supporte tout. Il est là pour ça. Et déjà, ça vous fait un bien fou. Que quelqu'un écoute ça, ses horreurs, ses péchés, ses défaillances, que quelqu'un écoute sans s'émouvoir vos pensées malsaines, vos jouissances honteuses, que quelqu'un écoute ça sans pipe et mot, sans vous foutre dehors, sans vous faire la morale. Vous êtes là. Vous, qui partagez enfin, comment dire, votre dossier avec quelqu'un, vous partagez votre dossier intime, votre dossier criminel, et vous partagez le dossier que vous, vous êtes le seul à connaître, parce que, évidemment, vous avez des dossiers partout, dans toutes les administrations. Des dossiers dont, bien sûr, on vous garantit la complète confidentialité, mais enfin, il n'en est rien. Tout démontre que ça finit par filtrer, par se savoir. Enfin, il y a toujours quelqu'un pour connecter les dossiers qui ne doivent pas l'être, pour les mettre à l'air. Ça fait des histoires. Mais celui-là, ce dossier-là, justement. Vous êtes le seul à le connaître. C'est le dossier de vos pensées intimes, des reproches que, à l'occasion, personne ne songe à vous faire, mais que vous êtes le seul à formuler. Et alors, ce dossier le plus intime, eh bien, vous le partagez. Vous le partagez, et sur cette... Sur ce théâtre privé, vous êtes à la fois l'accusé, et vous êtes aussi le procureur, et aussi l'avocat. Bon, enfin, si on dit ça, alors le psychanalyste est le juge, mais c'est un juge indulgent, par fonction. Qui ne vous dit pas « Amen ». Il vous dit simplement quelque chose comme « à la prochaine ». Mais ça vaut absolution, si je puis dire. Vous pouvez aussi l'accuser, lui, votre analyste, vous faire son procureur. Ça arrive. Qu'est-ce qu'on prend quand on est analyste? Il ne fait rien pour vous. Vous écoute-t-il vraiment? Comment le savoir? Pourquoi ne dit-il rien? ou si peu, ou tellement à côté. Pourquoi fait-il ces bruits de papier, ces soupirs peut-être? Est-ce que par hasard il serait indifférent? Ou alors est-il trop intéressé par des propos qui n'en valent pas la peine, que vous préféreriez voir passer plutôt inaperçus, que vous glissez à la fin d'une phrase, d'un ton quelconque pour tromper sa vigilance? En fin de compte, que veut-il exactement, ce muet? Et aussi, il y a la grande question. Est-ce qu'il m'aime? Est-ce que j'intéresse? Peut-il me perdre? Mais cet analyste, enfin, ce n'est pas simplement celui que vous allez accuser, c'est aussi votre avocat, puisque vous lui confiez votre plainte, que vous la répétez, et que, la lui confiant, la répétant, elle se simplifie, elle devient plus claire à vos yeux, votre plainte. À l'occasion, elle se modifie, elle se perfectionne, si je puis dire. Et lui, il ne dit rien. Et qui ne dit mot consent depuis longtemps, la sagesse des nations, c'est ça. Donc, il y a une présomption qu'il est avec vous, de votre côté. Mais tout ça, enfin, ça se rencontre dans l'analyse, mais l'analyse, ça n'est pas ça. Ça, c'est l'enveloppe de l'analyse. Oui, vous avez un dossier, chacun a un dossier. Vous avez un dossier que vous connaissez, vous. Un dossier que vous plaidez en votre faveur comme un avocat et qui est aussi un acte d'accusation, celui que vous dressez contre vous-même. Et parfois contre la terre entière. Ou alors contre papa, contre maman, qui n'ont pas compris, qui ne vous ont pas assez aimé, ou alors qui vous ont trop aimé, qui n'ont pas fait ce qu'il aurait fallu faire, qui ont fait ce qu'il fallait justement ne pas faire. Bon. Il y a toujours, quelque part, quelque chose qui n'a pas été à sa place, ou qui a pris trop de place, ou qui n'a pas pris à cette place. Il y a toujours quelque chose de loupé. Et quelqu'un de loupé. Et ce quelqu'un, c'est vous, en règle générale. Mais c'est pas ça l'analyse. Hein. Ce n'est pas votre dossier. Ce n'est pas vos confessions. Ce n'est pas votre histoire. Ce n'est pas votre biographie. Votre famille, comme je disais, papa, maman, le frère, la sœur, et tonton, et tata, et taratata, et l'école, le lycée, les copains, les vacances, et la main de ma sœur dans la culotte du soir, si je puis dire, bon, etc., etc. Bon, c'est tout ça l'analyse, bien sûr. Et en même temps, ce n'est pas ça. L'analyse, ce n'est pas de dire ce que vous n'avez jamais dit à personne. Ce n'est pas de dire ce que vous savez. C'est de dire ce que vous ne savez pas. Ça, c'est beaucoup plus fort. Ça, c'est un secret que personne ne peut vous extorquer. Et même pas vous-même. Ce n'est pas dans votre dossier, ça, qui compte le plus vraiment. Ce n'est écrit nulle part. C'est pour ainsi dire, entre les lignes. Ou bien, on peut dire que c'est écrit, mais à l'encre sympathique, ou antipathique, c'est écrit à l'encre sympathique, celle qu'on utilisait jadis, quand on échangeait des correspondances secrètes. Il doit y avoir ça, peut-être, dans les Trois Mousquetaires. Une encre incolore, qui reste invisible tant qu'on ne la soumet pas à l'action d'une substance chimique, un réactif, ou à l'influence d'un phénomène physique comme la chaleur, par exemple. On a tous vu ça quelque part au cinéma, des lignes qui apparaissent quand on met le parchemin au-dessus d'une bougie, à ce moment-là, brusquement, ça devient lisible. Eh bien, disons que l'encre dont il s'agit, bon, c'est une métaphore, c'est une image, enfin que l'encre dont il s'agit dans la psychanalyse ne devient visible, lisible, que si on la soumet à l'action de la psychanalyse. Ça revient à dire que vous êtes, comme chacun, chacune, habité par un message secret. Voir que vous êtes vous-même, mais oui, un message secret. Bon, ça vous paraît une idée folle, mais ce message secret, vos rêves, tout de même, vous en donne une idée. Vos rêves ont un sens. Lequel précisément ? Et ça, on n'a pas attendu le cher Sigmund Freud pour le penser. Depuis toujours on rêve, on ne l'a pas attendu pour rêver, et on ne l'a pas attendu pour soupçonner que les rêves étaient des messages à déchiffrer. Les messages de qui ? De quelque dieu. Est-ce Dieu que depuis Freud, on appelle l'inconscient ?